Donc bonjour à tous. Donc mon signe est celui-là. Je m'appelle Delphine Petitjean. Vous avez mon nom inscrit. Normalement, j'avais Chantal Surgot, mais qui ne pouvait pas venir avec moi. Voilà, je voudrais remercier l'Université de Paris 8 de nous avoir invités. C'est un grand plaisir. Je voudrais vous présenter un petit peu ce que je fais. Je suis directrice pédagogique chez Visuel, Visuel France. En tout, il y a 11 régions avec 11 sous-associations. Ce que nous proposons, ce sont des formations en langue des signes. Et donc, je ne peux pas tout vous montrer, mais voilà, c'était vous présenter un petit peu des formations en langue première. Alors, c'est des personnes sourdes, signantes, mais qui n'ont jamais eu de cours, jamais eu de recul sur leur langue. Et donc, nous leur proposons une formation qui a ouvert il y a récemment. 104 stagiaires, c'est assez peu. Nous avons une autre formation où, à chaque année, nous avons multiples stagiaires sur 2386 stagiaires en tout. Et donc, Visuel France est en partenariat avec Paris 8 sur 3 formations. 2 qui ciblent, on va dire, la formation, l'enseignement, pour les adultes. La licence professionnelle, qui est centrée plutôt sur l'apprentissage aux enfants. Et la dernière, le DPCU, qui a pour objectif, on va dire, de donner aux personnes sourdes un approfondissement de la langue et puis de travailler sur ces pratiques approfondies de la langue des signes. Donc, mon rôle à moi, en tant que directrice pédagogique, c'est que je gère sur toute la France deux parties, que ce soit la formation pour la première langue, langue des signes française, ou en formation deuxième langue. Et le critère de référence sur lequel nous nous basons est utilisé aussi pour approfondir et analyser la langue des signes française. Donc ces évaluations, je vais approfondir un petit peu le point après, hein, je vais expliquer comment ça se passe exactement. L'objectif, c'est aussi de travailler sur le multimédia. Nous faisons des vidéos, des tournages, et ces corpus sont utilisés pour être diffusés dans le programme. C'est un programme qui est le même sur toute la France. Voilà, vous pouvez voir, je vous présente là, dans le slide, les différentes recherches et supports que nous utilisons. Donc, je vais approfondir sur le critère, le cadre de référence de compétences en langue, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors, c'est le document qui est en rouge, hein, et nous avons traduit en langue des signes française ce cadre de référence. Le problème, c'est une question politique. Hein. C'est vrai que la langue des signes, elle est pour une minorité, donc on est centré sur le handicap, sur l'oreille, sur la santé. Ce critère de référence, il nous permettait de montrer que la langue des signes, c'était une vraie langue, qui avait une qualité certaine qu'il fallait pouvoir évaluer. Ce qui était intéressant aussi, c'est que dans Visuel, dans l'association Visuel, il y a un réseau, un programme qui peut être partagé et diffusé sur toute la France. Ce cadre de référence, il nous sert à quoi et qu'est-ce qu'il nous apporte exactement? Il nous permet de préparer des programmes avec des objectifs très larges. On peut partir de choses très générales, mais on peut aussi aller sur des choses très spécifiques, comme les polices, les mairies, travailler sur un vocabulaire très spécifique. Et les objectifs sont les mêmes pour tous. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça permet de valider, d'évaluer des compétences similaires à tout un chacun. Donc ce cadre de référence, il nous permet ça, de travailler là-dessus, et il nous permet aussi de travailler les évaluations. Parce que grâce à ce cadre de référence, nous pouvons construire des évaluations pertinentes pour pouvoir évaluer tous nos stagiaires. Dans ce cadre de référence, alors vous pouvez voir les différents niveaux qui sont proposés sur le schéma que je vous propose. Donc le A1, c'est vraiment les débutants. Et puis, c'est vraiment un critère qui est valable pour toute l'Europe. C'est ça qui est intéressant. Et ça nous donne aussi, en fait, on va dire, dans les apprentissages, une motivation. Parce que c'est une approche actionnelle, ce n'est pas simplement des cours pour des cours, c'est vraiment, il y a des missions, on va dire, des objectifs. Et je pense que ça donne vraiment une vraie motivation aux stagiaires pour pouvoir avoir l'envie d'apprendre et avoir l'envie d'aller sur les différents objectifs et d'atteindre ces différents objectifs. Alors j'aurais plein d'exemples à vous proposer, mais malheureusement je n'ai pas le temps de le faire, donc j'en ai choisi un pour vous présenter ce cadre-là. Bien sûr, avant ça, j'ai fait un petit schéma qui se base sur Bachmann et Palmer. Et donc, ce schéma, l'idée, c'est de montrer quelles sont les compétences générales nécessaires dans une langue et aussi quelles sont les compétences spécifiques au modèle de communication. C'est aussi nécessaire pour évaluer les compétences de pragmatique. Et là, nous sommes vraiment dans l'objectif de vous montrer cette analyse qui avait été faite, cette analyse linguistique en 2008, comment en cours on peut utiliser ce cadre de référence pour donner ces compétences à nos stagiaires. Et ça, c'est grâce aussi aux recherches faites à Paris 8. Les recherches faites en linguistique à Paris 8. Donc le cadre de référence, les analyses en ont été faites, et donc en linguistique, les recherches, alors avec Christian Cuxac, Marianne Salandre, qui est présente aujourd'hui, qui est juste là, j'ai repris en fait un peu leurs recherches pour faire ce tableau. Ce travail, il a été fait sur le thème de l'iconicité, c'est-à-dire transfert personnel, transfert de situation, transfert de taille, de forme. Comment on apporte ces compétences-là aux stagiaires? Comment on les donne aux stagiaires? Et c'est ça que je vais vous montrer dans la suite de mon propos. Dans le cadre de référence, il y a trois compétences. La compréhension, l'expression, la production, et la discussion, l'interaction, les échanges. Ça, ce sont les trois compétences. J'ai choisi de prendre la production en me disant qu'il y a la production directe, qui est une première manière, et la deuxième production, qui est une production différée, avec laquelle on passe par caméra pour un enregistrement. Là, je parle plutôt de la production directe, c'est-à-dire en présentiel. Donc quand on a un niveau à 1, on est, on va dire, dans les débutants, dans les intermédiaires, pardon, B1, on est en capacité de s'adresser à un autre, mais effectivement, on n'est pas forcément en capacité de s'adresser à un public. Et puis, j'ai pris le contenu de ce cadre B1 pour que la personne puisse s'adresser à un autre sur un sujet qui lui soit propre, on va dire, quelque chose sur lequel il puisse s'exprimer. Alors que ça puisse être suivi par ce stagiaire sans difficulté. Et donc comment leur apporter cette motivation aux stagiaires pour qu'ils puissent produire eux-mêmes, faire une production directe.
Donc là, c'est un premier exemple que je vous montre. Alors, je n'ai pas pu vous montrer l'intégralité de la vidéo. Il a fallu que je fasse une sélection pour que vous puissiez vous en inspirer et que ça puisse vous parler. Donc c'est une vidéo qui explique les techniques du parachutisme, de la chute libre, Donc, c'est bon, une fois que vous en êtes inspiré, mais quelles sont les compétences linguistiques mises en œuvre ? Donc, je vais vous les transmettre pour que vous puissiez en prendre conscience. Donc ça, cette configuration, donc c'est un transfert de taille et de forme. Mais alors, c'est pas quelque chose qu'on découvre en niveau B1, hein, ça a déjà été un petit peu instillé lors des précédentes formations, des précédents niveaux. Là, on est en transfert situationnel lorsqu'il est en vol. Donc là, c'est un transfert situationnel. Pardon, l'interprète s'est trompé tout à l'heure, c'était transfert personnel précédemment. Et là, ça vous permet de comprendre justement ces théories grammaticales des langues des signes concrètement et de les observer là à travers ce corpus. Alors ensuite, comment est-ce qu'on met le stagiaire au travail dans la préparation ? Donc, on attribue des rôles, par exemple, prof de sport, il faut pouvoir préparer une séquence afin de pouvoir l'expliquer. Mais avec, bien entendu, des conditions et des consignes au regard de la grammaire, donc différents points, le pointage, l'énumération, la description, en fonction du sport qui sera choisi, évidemment l'espace de signation, la production qui doit être claire, la capacité discursive, qui doit être clairement établi. Donc, il faut aussi pouvoir passer par le schéma afin de pouvoir mémoriser, parce que, donc, je ne sais pas comment ça se passe pour le brésilien, mais effectivement, quand on change de langue et qu'on passe par la langue des signes, il faut pouvoir utiliser le dessin pour pouvoir mémoriser ce que l'on va dire. Donc, au sein des programmes, comment est-ce qu'on peut faire le pont entre la linguistique et la formation ? Mais maintenant que la formation a lieu, qu'est-ce qu'on évalue ? Comment on évalue ? Bien entendu, c'est toujours, encore une fois, se détacher de l'aspect médical de la langue des signes, on est vraiment dans l'aspect linguistique. Alors, comment évaluer donc ? Vous connaissez Rachid Mimoun, qui a été le fondateur de Visuel, qui a eu comme objectif de préserver justement la langue. Donc nous avons fait appel au CIEP, le Centre international d'études pédagogiques, qui est un organisme d'évaluation. Donc nous avions besoin de savoir comment évaluer sur des critères qualitatifs, sur des critères de progressivité, évidemment. Et le CIEP nous a guidés, nous a formés afin de pouvoir valider les différentes évaluations. Donc c'est vraiment des experts européens qui sont qualifiés et qui nous ont guidés. Et une fois que nous avons transmis ce dossier des évaluations, et qu'une fois qu'il a été validé, ça a été, avant que ça le soit, ça a été un énorme travail en amont. Donc il a fallu constituer une équipe qui s'est constituée d'experts. Et il a fallu réfléchir à comment créer ces évaluations. Ça a été un travail de préparation qui a duré environ 3 ans. Je vais vous donner un exemple sur le niveau B1. Le plus difficile, c'était sur la compréhension. Donc il a fallu établir des statistiques sur 100. Donc voir quel était le niveau requis minimum sur 100 afin de pouvoir établir des statistiques. Donc il y avait ces niveaux que je vous présente sur la slide. Donc trois compétences, compréhension, production et production différée. Oui. Donc qui sont évaluées sur l'ensemble du territoire national. Donc Les équipes de concepteurs ont évidemment établi les évaluations, mais également l'équipe multimédia. Tout a été réalisé en langue des signes. Nous ne sommes pas du tout passés par l'écrit du français. Nous nous sommes totalement détachés du français écrit. Nous avons tout réalisé en langue des signes. Donc, il a fallu former des formateurs pour pouvoir évaluer. Également, alors attendez, pour moi, ce qui est important, c'est cette slide-là. C'est vraiment très important. C'est lors de l'évaluation pour un niveau B1, il faut savoir que ça correspond, on évalue évidemment les compétences linguistiques. Là, d'un côté, vous avez B1 et B2, donc vous pouvez comparer les deux tableaux et voir ce qui est possible d'établir sur l'iconicisation de la langue des signes, sur la capacité discursive. Et on m'a dit de me dépêcher, donc c'est pour ça. Et ensuite, en approfondissant, développer le propos et les capacités langagières en langue des signes. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un programme qui est très riche, très dense, qui est utile, et nous avons pu mettre en place tout ce travail-là grâce au travail de recherche réalisé au sein de l'Université Paris 8. C'est vrai que j'ai eu très très peu de temps pour vous présenter l'ensemble de nos travaux, mais si vous voulez, pendant la pause, nous pourrons échanger plus longuement sur ce sujet. Merci de votre écoute.
Bonjour à tous. Je suis Conceição Saúde. Voici mon signe. Je viens de João Pessoa, à Paraíba. Mais je travaille à l'UFCG, à Campina Grande. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres pas. Je suis pédagogue de formation, je suis spécialisée dans la Libras et j'ai un master en sciences de l'éducation. Je travaille sur l'inclusion et le bilinguisme dans l'éducation des sourds. C'est vraiment ma grande passion. Lorsque je travaillais à l'école de la municipalité, je travaillais avec de nombreux sourds et cela représentait un grand défi. Car le sourd était seul à devoir être intégré. Et sans langue des signes, le sourd n'a aucune possibilité de s'intégrer. Et la langue n'était pas défendue au sein de l'école. Donc c'était difficile. Il fallait donc s'adapter, travailler avec certains matériaux didactiques pour intégrer au mieux le sourd et lui permettre de se développer. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches avec ces matériaux. Je vais vous en présenter une partie qui a été réalisé donc à l'UFCG. Et vous allez pouvoir prendre connaissance de mon travail sur la pédagogie. Donc c'est un travail que j'ai réalisé avec la professeure Michel, qui est également présente. Et je vais donc commencer la présentation. Donc, nous sommes partis de cette expérience que j'ai vécue et nous avons commencé une recherche sur une discipline qui durait 60 heures. Il s'agissait donc d'une discipline, d'une matière de Libras de 60 heures et l'enseignante m'a invitée, m'a offert cet espace et avec Michel, nous avons alors produit des stratégies qui pourrait permettre aux élèves de développer leurs connaissances et leurs compétences au travers de l'adaptation de matériaux didactiques. Il y avait des enseignants sourds, des enseignants entendants, des enseignants qui travaillaient dans une école bilingue, l'école bilingue pour sourds de Campina Grande. Il s'agit d'ailleurs de la seule école bilingue de Campina Grande. Nous avons donc commencé à enseigner à ces enseignants l'histoire, le portugais, les maths, et également aux enseignants de Libras. Nous avons également invité d'autres enseignants de la municipalité ou même des municipalités voisines afin qu'ils participent également à cette initiative. Et il y a eu trois phases dans ce processus. Donc, je vais maintenant vous expliquer la méthodologie de cette formation. Nous avons commencé par des études théoriques, car 60 heures pour la Libras, c'est peu pour comprendre comment on peut expliquer de façon théorique la langue des signes. Et il nous fallait pourtant le faire. Donc, nous avons commencé avec des bases théoriques, afin que les élèves puissent prendre connaissance de ces théories et développer leurs connaissances davantage. Deuxième phase, les élèves devaient comprendre de façon pratique comment vivre cette matière, comment adapter le portugais à la langue des signes brésilienne. La Libras, c'est une langue de communication, mais pas forcément le portugais. Donc, il fallait que l'enseignante ait des stratégies pour utiliser des jeux, des dynamiques qui favorisent également l'apprentissage du portugais par les élèves. Chaque groupe était responsable et devait produire une stratégie, un jeu, par exemple, qui permette de développer la compréhension des élèves. Des jeux didactiques qui seraient adaptés à chaque matière. Toujours dans cette deuxième étape, les étudiantes devaient présenter ce jeu en langue des signes pour qu'on puisse les corriger. Puis nous sommes passés à la troisième étape. Il s'agissait donc d'aller à l'école, à l'EDAC. Et cela a été un moment très spécial car les élèves sourds ont pu vivre les dynamiques, ils ont pu apprendre, ils ont pu échanger avec des élèves qui avaient justement créé les jeux. Donc cela a été un moment très, très passionnant pour nous. Et je vais vous en montrer quelques photos, je n'ai plus beaucoup de temps. Donc ici, vous pouvez voir une photo, quelques photos de la première étape, l'étude théorique et la formation en langue des signes. Ici, la deuxième étape, avec ce moment didactique de production du matériel au travers d'ateliers qui étaient réalisés, des collages, des peintures. Mais certaines enseignantes disaient qu'elles ne pouvaient pas le faire, qu'elles n'avaient pas d'argent, que la mairie n'allait pas les payer, que l'université n'allait pas collaborer du point de vue financier. Et je leur disais, mais calmez-vous, le plus important ici, c'est d'utiliser une stratégie qui vous permette de moins dépenser. Utiliser par exemple des assiettes en plastique recyclables, de vieilles bouteilles en plastique, tout ce qui pourrait être recyclé. Utilisez-le. Et peu importe si c'est sale, car ça va devenir un jeu. Et elles se sont rendues compte que c'était possible, finalement, de le faire et de produire ces matériaux. Donc, ici, vous pouvez voir quelques photos avec des déchets qui, finalement, ont été recyclés par nos soins, réutilisés. Alors, maintenant, les jeux. Est-ce que vous connaissez ce jeu, le Twister? Vous devez placer vos mains et vos pieds en fonction des couleurs Et généralement, les sourds adorent ce jeu et vous pouvez enseigner les couleurs. Par exemple, si vous avez le jaune, il faut placer vos mains et vos pieds en fonction de ces couleurs, en suivant les règles du jeu. Et là, c'est très, très drôle. Puis, avec des pots de yaourt, nous avons fait un jeu de mémoire, un memory, avec des signes identiques qui peuvent être trouvés. Donc, il s'agit d'établir un lien entre l'image et le signe. Alors, pour les maths, maintenant, nous avons utilisé un jeu de bowling où l'on compte et où on fait des additions en fonction du score obtenu. Un jeu de pêche également, pour qu'on puisse travailler la configuration des mains ainsi que d'autres paramètres. Et puis également voir quel poisson va être pêché et faire des signes en fonction du type de poisson. On peut vraiment produire de nombreux signes grâce à ce type de configuration. Pour conclure, l'éducation bilingue se concentre sur la langue des signes. Mais il est vrai que le portugais est également très important. Et le travail de ces deux langues peut se faire au travers de jeux, ce qui met en valeur la langue des signes, mais aussi développe l'apprentissage du portugais en tant que langue vivante d'eux. Ici, vous pouvez voir des photos de moments à l'école, des moments de jeu, et ils nous ont demandé de revenir à tout prix. Ils nous ont supplié même. Et les instituteurs de l'école étaient très intéressés. Ils voulaient que l'on continue à contribuer dans ce sens. Donc maintenant, il s'agit de se retrousser les manches et de continuer à travailler. En guise de conclusion, j'aimerais que vous pensiez qu'il est possible de s'adapter en fonction des disciplines, de créer des matériaux de toutes pièces, même si vous n'en avez pas, de façon à ce que tout enseignant puisse avoir à sa disposition ces matériaux didactiques et aussi afin de développer la prise de conscience sur l'importance de l'apprentissage bilingue chez les enfants. Merci. Voici mon contact. Demain, nous aurons un atelier et justement, nous verrons un peu mieux la question de cette production. Donc, venez jouer avec moi demain. Bonjour à tous. Je suis un peu nerveuse. C'est ma première fois ici. C'est la première fois que je viens en France. Je suis très heureuse d'être ici. À vrai dire, je n'avais jamais pris l'avion. Donc, c'est ma première fois. Je suis très heureuse. Je suis Girlaine. Et ici, je vais vous présenter une partie de mes travaux de recherche de master. Je suis professeure également à l'UFCG. Mais mon thème a été donc inspiré des cours d'enseignement de Libras en tant que L2. Donc genre et instruction de parcours dans l'enseignement de Libras en tant que L2. Voici le thème que je vais traiter aujourd'hui. Je suis venue avec ma directrice de recherche qui ne connaît pas la langue des signes Elle s'appelle Gilles et elle m'aide dans ce processus et dans cette recherche. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette recherche lors d'un cours d'extension dans le cadre d'un projet de formation d'enseignants de Libras en tant que L2. Nous y avons étudié donc la formation avec des genres textuels et l'adaptation vis-à-vis des entendants. Comment les entendants peuvent apprendre la Libras? Donc, j'ai commencé ce cursus en 2016. C'est la troisième année de formation. Ce cursus existe encore aujourd'hui. Et j'ai décidé de prendre le matériel didactique qui était à ma disposition pour l'enseignement de la Libras. Je l'ai produit donc en 2017. Nous avons déjà un peu changé ce matériel pour mieux l'adapter et pour que les élèves puissent, à partir du matériel, développer de façon plus claire leur langue des signes. Donc déjà en 2018, ce matériel a été largement amélioré. Donc l'enseignement de Libras en tant que L2 implique que les élèves puissent comprendre la langue qui est communiquée au niveau visuel et réaliser des activités. Les élèves vont devoir comprendre les signes pour ensuite établir une comparaison. Donc voici mon corpus de recherche. J'utilise ces données pour évaluer la performance des élèves. Il est très important de penser le genre textuel et sa diversité dans l'enseignement, de façon à ce que les élèves entendants puissent comprendre comment la langue des signes fonctionne dans la société. C'est une communication sociale qui doit être intégrée dans la salle de classe. Lorsque les élèves vont rencontrer des sourds, ils vont pouvoir comprendre, ils vont pouvoir communiquer de façon fluide. Donc ici, vous pouvez voir l'enseignement qui est centré dans des genres textuels de façon à ce que les élèves soient cohérents lorsqu'ils doivent communiquer par signe. Donc mon objectif général est de faire en sorte que les apprenants de L2, de Libras L2, puissent apprendre la langue à travers des genres textuels. Mais les objectifs les plus précis sont aussi d'identifier les caractéristiques de cette langue et de décrire les dimensions de cette langue au travers d'un genre textuel. Donc, maintenant, quelle est ma base théorique? C'est celle de l'interactionnisme socio-discursif, l'ISD. C'est donc l'influence de cette théorie, une théorie qui a été produite par les entendants, que j'ai adaptée à la langue des signes dans le cadre de ce processus d'enseignement d'une nouvelle langue. Brancard est ma principale référence, ainsi que Adam, sur la production du langue vis-à-vis du sujet, comment le sujet produit cet apprentissage. Adam a plusieurs catégories et j'en ai choisi une pour ma dissertation. C'est celle de l'injonction, la production de l'injonction dans l'enseignement. La description de la langue dans l'espace est aussi intéressante. J'utilise donc cette perspective descriptive. Il y a deux éléments donc dans cette perspective. Le modèle analytique de genre et le modèle didactique de genre avec les capacités linguistiques que les élèves doivent développer pour apprendre et produire le langage. Donc trois capacités, la linguistique, la capacité d'action avec les contextes sociaux, la capacité discursive, une structure au sein de laquelle vous pouvez comprendre un élément et le produire, et la linguistique, la capacité linguistique discursive, où vous produisez les opérations de connexion, de cohésion verbale, nominale, afin d'activer vos compétences et parvenir à comprendre la structure de la langue et arriver à une communication effective. Maintenant, quant à ma méthodologie, je passe par la recherche-action. C'est comme une exploration. Je me suis appuyée sur Elan pour transcrire les données. Ici, vous pouvez voir une carte de l'UFCG. Et sur cette carte, vous pouvez voir... Autour de cette carte, vous pouvez voir des productions de signes avec des instructions de parcours. J'en ai choisi une à présenter. Donc, c'est la production qui a été faite à partir de l'arrivée au rectorat jusqu'à la Banque du Brésil. Donc, j'ai vu comment se passait, comment le signeur procédait, et quelle était l'activité qui était réalisée pour qu'ils puissent réellement bien comprendre comment arriver sur les lieux. Ici, vous pouvez voir la carte de l'université. Et donc ensuite, vous avez les instructions de l'itinéraire qui sont données par un élève. Donc tout est référencé dans l'élan. On voit l'injonction, la séquence injonctive, les différents signes de pointage. Le pointage est également une catégorie de cette recherche. Il y a trois types de pointage. Les pronoms démonstratifs, les verbes directionnels. Le corps bouge également dans la même perspective du pointage pour contribuer à la compréhension de l'information. Ici, vous pouvez voir quelques images du fonctionnement d'élan. Et ici, vous pouvez voir la façon dont laquelle j'ai pu sélectionner les éléments pour ma dissertation. Donc, voici l'activité réalisée qui donc figure parmi le matériel que j'ai produit pour l'enseignement. Ici, le dialogue. Et en guise de conclusion, il est important que les universités puissent mieux enseigner ces langues de ces L2. Lorsque j'ai commencé à enseigner ces langues, nous avions à peine le vocabulaire nécessaire. Et maintenant, il faut déjà penser au-delà de cela. Il faut créer des matériaux qui soient adaptés à l'enseignement de ces langues en tant que L2. Il faut penser à la structure de la langue, mais il faut également que les entendants puissent comprendre le fonctionnement visuel de la langue. Ce n'est pas facile d'apprendre une deuxième langue. Il faut avoir une organisation bien structurée afin que l'élève puisse comprendre le fonctionnement réel de la langue et avoir à sa disposition le matériel nécessaire à lui montrer comment fonctionne chaque élément du corps dans la production langagière. L'enseignement de la langue a vécu un changement de paradigme grâce à l'ISD. Et je pense qu'il faut poursuivre dans ce sens afin que nous continuions à améliorer l'enseignement de la LIBRAS en langue 2 et toujours bénéficier du soutien des politiques publiques dans ce sens. Merci.
Je voudrais remercier vraiment vivement donc toutes mes collègues de post-graduation qui m'a beaucoup stimulée à venir présenter ce moment de ma recherche. Je voudrais vraiment remercier également la FCG, vous et vous. Vraiment, merci beaucoup.
Bon dia à tous.
Bonjour à tous. Comme je ne connais ni la LIBRAS ni la langue des signes française et mon français est très rudimentaire, je vais vous parler en portugais du Portugal, mais j'aimerais également que vous connaissiez mon signe qui est celui-ci, mon nom en signe. Et j'aimerais également de vous dire bonjour dans notre langue des signes qui est comme ceci. J'aimerais commencer cette brève présentation. C'est un travail de nous trois, le mien et celui de mes collègues. J'aimerais tout d'abord corriger le titre qui a été présenté dans le programme, étant donné que nous l'avons changé. Et comme vous voyez, voici le nom de deux personnages, André et Valentin, chacun pour un projet différent. Ce sont deux projets qui ont pour but l'enseignement et l'apprentissage de L1 et L2, comme ceci est déjà dans le programme. Donc, il me revient de vous parler un peu. Ensuite, vous pourrez le voir un petit peu plus de près, ce projet qui est un livre bilingue. Nous allons avoir un extrait. C'est accompagné d'un DVD à la fin du livre. C'est un livre qui a une histoire en portugais qui a été écrite par moi, donc qui a été racontée en langue des signes par mon collègue et qui a également une chanson songwriting dont Rafaela va vous parler. C'est elle qui est responsable du songwriting. Donc ce n'est pas simplement une histoire pour enfants traduite, mais non, elle a été traduite, elle a été écrite en pensant dans la réalité, à la réalité des enfants sourds et leur réalité. Nous allons voir un extrait. Nous n'avons pas le temps de parler un petit peu plus, mais je vais vous parler un petit peu plus d'André, qui est sourd. Sa mère découvre qu'il est sourd. Elle passe par un processus d'acceptation et ensuite, elle décide d'apprendre la langue des signes en portugais pour communiquer avec son fils. Donc, nous allons voir un petit peu un extrait qui est une présentation générique du livre où vous pourrez voir la langue des signes, la voix et le songwriting. Et voilà, et le sign writing également. Donc l'interprète corrige, ce n'est pas sang, mais sign. Voilà, alors maintenant, simplement pour une mise au point technique, on n'entend pas le son, mais quelques petits instants. Il était une fois une petite fille parfaite. C'était une petite fille très jolie, qui avait des longs cheveux dorés, des yeux de la couleur de la mer, un sourire brillant, rayonnant, et elle était toujours de bonne humeur. Elle était gentille avec tout le monde et très rarement elle se conduisait mal. Elle était bonne élève à l'école, elle aimait apprendre, elle aimait jouer avec ses amis à la récré. Alors voici un petit extrait de ce livre. Donc ensuite vous pourrez le feuilleter et voir que l'image que vous avez vue correspond à l'image du livre. Le narrateur est dans ce livre également. Ce livre a pour but didactique l'enseignement et l'apprentissage de L1, donc elle s'articule. Alors voici un schéma de programme curriculaire donc de langue des signes portugaise pour l'enseignement donc primaire. Elle commence déjà à partir en maternelle à partir des 3 ans et elle va jusqu'à l'âge des 15 ans. Ensuite, en secondaire, enseignement secondaire de 15 ans jusqu'à la fin de l'enseignement obligatoire. Alors, il y a un narrateur qui est sourd, qui raconte l'histoire en langue des signes portugaise. Ce livre permet de multiples apprentissages, l'enseignement bilingue également, étant donné qu'elle encourage donc la littératie et donc l'apprentissage du portugais. portugais. C'est un livre important. Elle parle de la réalité de l'enfant sourd et des parents entendants, donc les parents d'enfants sourds. C'est un livre qui s'insère dans l'apprentissage de la première langue. Vous allez voir ensuite, ma collègue va vous en parler en termes. Donc, étant donné que c'est un livre qui est transcrit en signes et la langue des signes est également présente dans le programme curriculaire de portugaise, donc elle encourage également l'apprentissage de la langue des signes. Pour conclure mon intervention, c'est un livre qui est également lié à la sensibilisation à des enfants entendants, étant donné qu'elle permet à l'accès aux livres en langue portugaise également. Bonjour à tous, je suis Rafaela. Rafa, voici mon signe. Alors, comme ma collègue Isabelle l'a déjà dit, c'est un livre qui encourage non seulement l'acquisition et l'apprentissage de la langue des signes dans sa modalité visuelle et produite en signes, mais également écrite. Et ce que je vous montre ici est un document donc, qui a été écrit en portugais, travaillé dans les classes en portugais avec des élèves sourds. Et comme vous pouvez vérifier, les élèves sourds ressentent le besoin, à côté du mot en portugais, d'écrire une forme de représentation en langue des signes, c'est-à-dire pour l'associer à des mots écrits, donc le mot écrit en portugais, à ce qu'est sa première langue. Voici un point de départ extrêmement important afin que nous comprenions l'importance du sign writing lorsqu'il est effectivement appris dans une langue des signes d'un âge précoce. Donc le sign writing est simplement présent dans l'enseignement secondaire. À partir des 15 ans, les élèves sourds commencent à avoir un contact avec le sign writing. Et avec ce livre, nous pouvons avoir déjà un premier contact avec des élèves pour une diffusion, pour travailler le sign writing auprès d'enfants. Et nous comprenons, comme vous pouvez voir dans cette image, tous les enfants sont sourds, hein, ils ont tous le livre et nous avons pu travailler. Nous avons fait une petite sensibilisation, un cours sur le sign writing. Donc, c'est une première approche, premier contact. À la fin, nous avons organisé une activité à la rapidité avec laquelle les enfants ont assimilé et ont produit le sign writing est effectivement impressionnant. Alors, comme Isabelle l'a souligné, c'est un livre qui est un outil important non seulement pour le public sourd, mais également pour le public d'entendant. C'est un matériel qui permet de sensibilisation à l'existence de la langue des signes et également de l'écriture. Et à présent, je donne la parole à ma collègue Johanna. Mon nom est Johanna et voici mon signe. Je ne connais pas non plus la Libras ni la langue des signes française. Je vais vous parler également en portugais. Alors, il m'appartient de vous parler du deuxième projet. Je vais m'asseoir afin que mes collègues effectivement puisse voir. Alors, je vais vous parler du deuxième projet qui concerne Valentin. Alors, Valentin est inscrit dans un projet qui va se terminer en 2019. Donc, nous n'avons pas encore les conclusions de ce projet, mais il a pour objectif celui de sensibiliser non seulement des enfants sourds, mais également des enfants entendants ou des enfants qui puissent intégrer dans une classe de premier cycle. Le premier cycle, donc l'enseignement élémentaire qui va des 6 ans jusqu'aux 10 ans, hein, jusqu'à 10 ans des enfants. Alors ici, nous avons une image d'une forme alors que les élèves de l'école supérieure de design ont découvert. Ils ont essayé de découvrir, d'analyser afin de parvenir à une forme plus manuelle et que l'on puisse manipuler facilement afin de découvrir ces personnages. Dans ce cas, Valentin, son super pouvoir est la vision, la vue et la mémoire. Donc, avec 4 autres camarades, chacun d'eux a une spécificité très, très positive et fera en sorte que les enfants prennent connaissance de ces différences au travers d'aspects positifs. Alors, bien évidemment, l'enfant sourd, nous avons voulu, en accord avec sa caractéristique sa caractéristique principale qui est la vue. Alors nous avons un jeu pour ceci qui n'est pas encore finalisé, mais dans ce jeu nous aurons effectivement un bingo, hein, et donc là nous avons des images, hein, ce sont ces images que nous avons, certaines des images que nous présentons ici, donc du côté droit. Dans ces images nous voyons Emmanuel. Alors Emmanuel est un élève sourd, hein, donc dans les cours supérieurs master de langue des signes portugaise, et l'objectif, le but est que les élèves entendants ou sourds, hein, qui sont intégrés dans les écoles, qu'ils puissent apprendre la langue des signes portugaise. Alors pour donc outre le jeu du bingo, hein, tous les gestes de la langue des signes portugaise qui sont présents dans ce jeu seront également présents dans un DVD afin que les enfants puissent connaître les mouvements de la langue des signes portugaise. Alors voici, notre temps se termine. Voilà nos références bibliographiques. Il nous reste à remercier pour votre attention. Merci. Alors, pendant les entretiens, les personnes vont naturellement raconter leurs histoires personnelles, d'accord? Et la personne qui est en interaction, qui est donc le chercheur, va demander, est-ce que vous acceptez que nous mettons à disposition du public votre histoire? Et à ce moment-là, la plupart des sourds acceptent que leurs histoires soient mises à disposition des autres. Si la personne ne le veut pas, alors ces données sont coupées, effectivement. Cette partie, on la coupe, effectivement. D'accord? Mon nom est Clarisse, voici mon signe. J'aimerais pour vous poser une question. Je suis professeure de Libras également. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de professeurs de Libras dans les instituts, dans les universités, pour effectivement gérer donc cette diffusion de la Libras dans les études, dans les cours. Mais très souvent, nous n'avons pas de matériel, hein, et nous devons nous-mêmes produire tout seul ce matériel didactique. Alors souvent, nous disposons d'un petit peu de matériel qui est produit déjà, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors, les professeurs doivent créer leur propre matériel. J'ai trouvé que c'était très intéressant. J'aimerais savoir un petit peu, lorsque vous avez abordé la question des genres textuels, alors, comment travaillez-vous sur cette question? Sur quoi vous basez-vous? Quelle est l'importance? Alors, comment vous travaillez avec ce matériel avec les élèves de l'enseignement élémentaire ou supérieur ou secondaire? Alors, c'est une excellente question. Très souvent, beaucoup de professeurs enseignent la Libras, alors ils vont faire eux-mêmes leur matériel, hein. Donc, nous, professeurs, nous devons réfléchir à comment ce matériel doit être produit. Moi, par exemple, j'ai produit le mien avec Shirley. Nous avons inséré des éléments. Nous voyons qu'il y a effectivement une dépendance très, très grande du portugais, hein. Nous voulons effectivement l'enlever complètement, cette influence. Nous voulons savoir quelle stratégie nous devons utiliser afin que les élèves puissent voir les genres textuels avoir lieu, hein, et être insérés sur le matériel. Nous travaillons effectivement, nous ne travaillons pas avec les autres niveaux, nous voyons chaque niveau un par un, hein, et nous utilisons le matériel de YouTube, hein, les vidéos qui existent. Voilà, c'est le signe de Label Libras. Nous avons commencé à produire ce matériel, mais nous n'avons pas encore diffusé. C'est encore en phase de préparation et nous voulons faire un e-book, que cela fasse partie de ce projet, que pour que nous puissions avoir ce matériel, qu'il soit effectivement à disposition de tous librement. Hein, avec un mot de passe hein, pour les élèves. Et ce n'est pas besoin de l'imprimer. Hein, voilà, nous avons des liens possibles hein, que nous pouvons activer pour que nous puissions effectivement avoir, nous puissions signer en fonction de l'activité, en assistant, en passant par toutes les étapes de la réalisation des activités. Nous, c'est un projet. Hein, nous sommes encore en train de l'organiser. Nous voyons comment nous pouvons le faire. Nous discutons à l'intérieur, au sein de notre groupe, pour que nous puissions le mettre à disposition de tous. Et je pense, j'espère que nous pourrons, effectivement, dans la rencontre avec les autres, que nous puissions avoir la possibilité pour le développement de la L2. Hein. Notre but est que, effectivement, nous puissions avoir accès à tout ce contenu dans la discipline de la Libras. Et nous pour que nous n'ayons pas simplement ce contenu pour la Libras, mais que nous puissions le diffuser auprès des autres matières dans l'enseignement du portugais. Ce n'est pas le cas pour l'instant encore. Dernière question, s'il vous plaît. Nous sommes un petit peu, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous essaierons de prendre les questions. Voilà, la dernière question, s'il vous plaît. Votre signe, s'il vous plaît. Conseil Saint, j'ai trouvé que ton travail était extrêmement intéressant concernant le matériel didactique parce que il existe effectivement beaucoup de difficultés concernant ces questions. Hein. Il subsiste des difficultés et les sourds ont besoin de tout ce travail concernant ce matériel didactique. Alors, nous avons besoin, nous devons exploiter la question encore, explorer la question du matériel parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore si fondamental. Lorsque nous apportons des dynamiques directement auprès des élèves, lorsque vous motivez les élèves, vous n'êtes pas aussi dépendante de ce matériel didactique. Par conséquent, nous avons dans les institutions ce travail qui doit être fait. Mais si vous avez des professeurs qui ont déjà la didactique et qui mettent à disposition, vous pouvez effectivement explorer le monde entier avec cet élève. Comment voyez-vous ce travail, ce profil professionnel de sourd et de son action auprès des élèves? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, pour l'affluence en termes, donc en langue des signes, est très importante, le fait d'être fluent. Alors, la question didactique. Alors, voici mon avis. L'enfant a besoin de l'aspect ludique. Hein, il a besoin de jouer. Il doit comprendre que c'est par ce jeu que passe le contenu. Il faut faire donc construire une dynamique afin que l'enfant puisse continuer à se développer. Et ainsi, il peut développer la langue des signes. Alors, les professeurs, les enseignants dans l'enseignement traditionnel, disons qu'ils se basent sur des aspects qui n'intéressent pas l'enfant. L'enfant est intéressé par le jeu. Ainsi, il peut développer la langue des signes. Il est plus fluent. Hein, il est plus à l'aise. Mais le souci ne se situe pas, ne se base pas uniquement sur les matériels, sur le matériel didactique. Alors nous devons voir ce professionnel, comment il établit sa didactique. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense que nous devons également nous atteler à faire un travail avec les professionnels, hein, avec le travail développé par eux. La recherche continue et nous devons trouver les éléments importants, d'accord, de cette recherche et ce qu'est effectivement le centre d'intérêt afin que cet enseignement se développe et la la signalisation également et la stratégie pour que les enseignants ne soient pas dépourvus de matériel, hein, que l'enseignement soit efficace et efficient. Voilà. Alors, effectivement, les enseignants n'ont pas tous accès à la langue des signes. Voilà la question. Alors, nous allons effectivement terminer ce temps de débat, de questions-réponses. Je suis désolée, nous sommes un tout petit peu en retard sur notre le temps qui nous est imparti. C'est très important. Effectivement, nous avons commencé ce travail de L2, qui là, c'est effectivement le point central et sont les enseignants. Mais autre chose, effectivement, nous avons toute l'affluence de la langue des signes. Ensuite, nous avons fait tout ce travail didactique et je pense que c'est très important. Donc, il y avait un travail qui complète l'autre travail. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes ici et l'organisation également. Merci beaucoup.